Locke, traité du gouvernement civil, chapitre 14 et 15. Chapitre 14, de la prérogative. 159. Lorsque le pouvoir législatif et le pouvoir exécutif sont en différentes mains, comme dans toutes les monarchies modérées et dans tous les gouvernements bien réglés, le bien de la société demande qu'on laisse quantité de choses à la discrétion de celui qui a le pouvoir exécutif. Car les législateurs, n'étant pas capables de prévoir tout, ni de pourvoir, par des lois, à tout ce qui peut être utile et nécessaire à la communauté, celui qui fait exécuter les lois étant revêtu de pouvoir, a, par les lois communes de la nature, le droit d'employer son pouvoir pour le bien de la société, dans plusieurs cas, auxquels les lois de l'État n'ont point pourvu, jusqu'à ce que le pouvoir législatif puisse être dûment assemblé et y pourvoir lui-même. Et, certainement, il y a plusieurs cas auxquels les législateurs ne sauraient pourvoir en aucune manière, et ces cas-là doivent nécessairement être laissés à la discrétion de celui qui a le pouvoir exécutif entre les mains, pour être réglé par lui, selon que le bien public et l'avantage de la société le demandera. Cela fait que les lois mêmes doivent, en certains cas, céder au pouvoir exécutif, ou plutôt à la loi fondamentale de la nature et du gouvernement, qui est qu'autant qu'il est possible, tous les membres de la société doivent être conservés. En effet, plusieurs accidents peuvent arriver dans lesquels une observation rigide et étroite des lois est capable de causer bien du préjudice, comme de ne pas abattre la maison d'un homme de bien pour arrêter le ravage d'un incendie. Et un homme, en s'attachant scrupuleusement aux lois, qui ne font point distinction des personnes, peut faire une action qui mérite une récompense et qui, en même temps, ait besoin de pardon. C'est pourquoi celui qui tient les rênes du gouvernement doit avoir, en divers cas, le pouvoir d'adoucir la sévérité des lois et de pardonner quelques crimes, vu que la fin du gouvernement étant de conserver tous les membres de la société autant qu'il se peut, des coupables doivent être épargnés et obtenir leur pardon, lorsqu'on voit manifestement qu'en leur faisant grâce, on ne cause aucun préjudice aux innocents. 160. Le pouvoir d'agir avec discrétion pour le bien public, lorsque les lois n'ont rien prescrit sur de certains cas qui se présentent, ou quand même elles auraient prescrit ce qui doit se faire en ces sortes de cas, mais qu'on ne peut exécuter dans de certaines conjonctures sans nuire fort à l'État, ce pouvoir, dis-je, est ce qu'on appelle prérogative, et il est établi fort judicieusement. Car, puisque dans quelques gouvernements le pouvoir législatif n'est pas toujours sur pied, que même l'assemblée de ce pouvoir est d'ordinaire trop nombreuse et trop lente à dépêcher les affaires qui demandent une prompte exécution, et qu'il est impossible de prévoir tout et de pourvoir par les lois à tous les accidents et à toutes les nécessités qui peuvent concerner le bien public, ou de faire des lois qui ne soient point capables de causer du préjudice dans certaines circonstances, quoiqu'on les exécute avec une rigueur inflexible dans toutes sortes d'occasions, et à l'égard de toutes sortes de personnes. C'est, pour toutes ces raisons, qu'on a donné une grande liberté au pouvoir exécutif, et qu'on a laissé à sa discrétion et à sa prudence bien des choses dont les lois ne disent rien. 161. Tant que ce pouvoir est employé pour l'avantage de l'État et conformément à la confiance de la société et aux fins du gouvernement, c'est une prérogative incontestable et on n'y trouve jamais à redire. Car le peuple n'est guère scrupuleux et rigide sur le point de la prérogative, pendant que ceux qui l'ont s'en servent assez bien pour l'usage auquel elle a été destinée, c'est-à-dire pour le bien public, et non pas ouvertement contre ce même bien. Que s'il vient à s'élever quelque contestation entre le pouvoir exécutif et le peuple, au sujet d'une chose traitée de prérogative, on peut aisément décider la question, en considérant si l'exercice de cette prérogative tend à l'avantage ou au désavantage du peuple. 162. Il est aisé de concevoir que, dans l'enfance, pour ainsi dire, des gouvernements, lorsque les États différaient peu des familles, eu égard au nombre des membres, ils ne différaient non plus guère eu égard au nombre des lois. Les gouverneurs de ces États, aussi bien que les pères de ces familles, veillant pour le bien de ceux dont la conduite leur avait été commise, le droit de gouverner et de conduire était alors presque toute la prérogative. Comme il n'y avait que peu de lois établies, la plupart des choses étaient laissées à la discrétion, à la prudence et aux soins des conducteurs. Mais, quand l'erreur ou la flatterie est venue à prévaloir dans l'esprit faible des princes et à les porter à se servir de leur puissance pour des fins particulières et pour leurs propres intérêts, non pour le bien public, le peuple a été obligé de déterminer par des lois la prérogative, de la régler dans les cas qu'il trouvait lui être désavantageux et de faire des restrictions pour des cas où les ancêtres les avaient laissés, dans une extrême étendue de liberté, à la sagesse de ces princes, qui faisaient un bon usage du pouvoir indéfini qu'on leur laissait, c'est-à-dire un usage avantageux au peuple. 163. Ainsi, ceux-là ont une très mauvaise idée du gouvernement, qui disent que le peuple a empiété sur la prérogative lorsqu'il a entrepris de la déterminer et de la borner par des lois positives. Car, en agissant de la sorte, il n'a point arraché au prince une chose qui lui appartint de droit. Il n'a fait que déclarer que ce pouvoir, qui avait été laissé indéfini entre ses mains ou entre les mains de ses ancêtres, afin qu'il fût exercé pour le bien public, n'était pas ce qu'il pensait lorsqu'il en usait d'une manière contraire à ce bien-là. Car la fin du gouvernement n'étant autre chose que le bien-être de la communauté, tous les changements et toutes les restrictions qui tendent à cette fin ne sont nullement une usurpation du droit de personne, puisque personne, dans le gouvernement, n'a droit de se proposer une autre fin. Cela seulement doit être regardé comme une usurpation qui est nuisible et contraire au bien public. Ceux qui parlent d'une autre manière raisonnent comme si le prince pouvait avoir des intérêts distincts et séparés de ceux de la communauté, et que le prince ne fût pas fait pour le peuple. C'est là la source de presque tous les malheurs, de toutes les misères, de tous les désordres qui arrive dans les gouvernements monarchiques. Et certes, s'il fallait que les choses allassent comme elles vont dans ces sortes de gouvernements, le peuple ne serait point une société de créatures raisonnables, qui composassent un corps pour leur mutuel avantage et qui usent des conducteurs établis sur elles pour être attentifs à procurer leur plus grand bien. Mais plutôt, un troupeau de créatures inférieures sous la domination d'un maître qui les ferait travailler et emploierait leur travail pour son plaisir et pour son profit particulier. Si les hommes étaient assez destitués de raison et assez abrutis pour entrer dans une société sous de telles conditions, la prérogative entre les mains de qui que ce fût qu'elle se trouvât pourrait être un pouvoir arbitraire et un droit de faire des choses préjudiciables au peuple. 164. Mais, puisqu'on ne peut supposer qu'une créature raisonnable, lorsqu'elle est libre, se soumette à un autre pour son propre désavantage, quoique, si l'on rencontre quelques bons et sages conducteurs, on ne pense peut-être pas qu'il soit nécessaire ou utile de limiter en toute chose son pouvoir. La prérogative ne saurait être fondée que sur la permission que le peuple a donnée à ceux à qui il a remis le gouvernement de faire diverses choses de leur propre et libre choix, quand les lois ne prescrivent rien sur certains cas qui se présentent, et d'agir même quelquefois d'une manière contraire à des lois expresses de l'État si le bien public le requiert, et sur l'approbation que la société est obligée de donner à cette conduite. Et véritablement, comme un bon prince qui a toujours devant les yeux la confiance qu'on a mise en lui, et qui a à cœur le bien de son peuple, ne saurait avoir une prérogative trop grande, c'est-à-dire un trop grand pouvoir de procurer le bien public. Aussi, un prince faible ou méchant, qui peut alléguer le pouvoir que ses prédécesseurs ont exercé, sans la direction des lois, comme une prérogative qui lui appartient de droit et dont il peut se servir, selon son plaisir, pour avancer des intérêts différents de ceux de la société, donne sujet au peuple de reprendre son droit et de limiter le pouvoir d'un tel prince, ce pouvoir qu'il a été bien aise d'approuver et d'accorder tacitement, tandis qu'il a été exercé en faveur du bien public. 165. Si nous voulons jeter les yeux sur l'histoire d'Angleterre, nous trouverons que la prérogative a toujours cru entre les mains des plus sages et des meilleurs princes, parce que le peuple remarquait que toutes leurs actions ne tendaient qu'au bien public. Aussi, par la fragilité humaine, car les princes sont hommes et faits comme les autres, ils se détournaient un peu de cette fin. Il paraissait toujours qu'en général, leur conduite tendait à cette fin-là, et que leur principale vue avait pour objet le bien du peuple. Ainsi, le peuple, trouvant qu'il avait sujet d'être satisfait de ses princes, toutes les fois qu'ils venaient à agir sans aucune loi écrite ou d'une manière contraire à des lois formelles, il acquiesçait à ce qu'ils faisaient, et sans se plaindre, il leur laissait étendre et augmenter leurs prérogatives comme ils voulaient, jugeant, avec raison, qu'ils ne pratiquaient rien en cela qui préjudiciât à ces lois, puisqu'ils agissaient conformément au fondement et à la fin de toutes les lois, c'est-à-dire conformément au bien public. 166. Certainement, ces princes, semblables à Dieu autant qu'il était possible, avaient quelque droit au pouvoir arbitraire par la raison que la monarchie absolue est le meilleur de tous les gouvernements. Lorsque les princes participent à la sagesse et à la bonté de ce grand Dieu qui gouverne, avec un pouvoir absolu, tout l'univers. Il ne laisse pourtant pas d'être vrai que les règnes des bons princes ont été toujours très dangereux et très nuisibles aux libertés de leur peuple, parce que leurs successeurs, n'ayant pas les mêmes sentiments qu'eux, ni les mêmes vues et les mêmes vertus, ont voulu tirer à conséquence et imiter les actions de ceux qui les avaient précédés et se servir de la prérogative de ces bons princes pour autoriser tout ce qu'il leur plaisait faire de mal. Comme si la prérogative accordée et permise seulement pour le bien du peuple était devenue pour eux un droit de faire, selon leur plaisir, des choses nuisibles et désavantageuses à la société et à l'État. Aussi, cela a-t-il donné occasion à des murmures et à des mécontentements, et a causé quelquefois des désordres publics, parce que le peuple voulait recouvrer son droit originaire et faire arrêter et déclarer que jamais ces princes n'avaient eu une prérogative semblable à celle que ceux qui n'avaient pas à cœur les intérêts et le bien de la nation s'attribuaient avec tant de hauteur. En effet, il est impossible que personne, dans une société, ait jamais eu le droit de causer du préjudice au peuple et de le rendre malheureux, quoiqu'il ait été possible et fort raisonnable que le peuple n'ait point limité la prérogative de ses rois ou de ses conducteurs, qui ne passaient point les bornes que le bien public marquait et prescrivait. Après tout, la prérogative n'est rien autre chose que le pouvoir de procurer le bien public sans règlement et sans loi. 167. Le pouvoir de convoquer les parlements en Angleterre et de leur marquer précisément le temps, le lieu et la durée de leur assemblée est certainement une prérogative du roi. Mais on ne la lui a accordée et on ne la lui laisse que dans la persuasion qu'il s'en servira pour le bien de la nation, selon que le temps et la variété des conjonctures le requerra. Car, étant impossible de prévoir quel lieu sera le plus propre et quelle saison la plus utile pour l'Assemblée, le choix en est laissé au pouvoir exécutif, en tant qu'il peut agir à cet égard d'une manière avantageuse au peuple et conforme aux fins des parlements. 168. On pourra proposer sur cette matière de la prérogative cette vieille question. Qui jugera si le pouvoir exécutif a fait un bon usage de sa prérogative? Je réponds qu'il ne peut y avoir de juge sur la terre entre le pouvoir exécutif, qui, avec une semblable prérogative, est sur pied, et le pouvoir législatif, qui dépend, par rapport à sa convocation, de la volonté du pouvoir exécutif. Qu'il n'y en peut avoir, non plus, entre le pouvoir législatif et le peuple. De sorte que, soit que le pouvoir exécutif ou le pouvoir législatif, lorsqu'il a la suprême puissance entre les mains, ait dessein et entreprenne de le rendre esclave et de le détruire, le peuple n'a d'autre remède à employer en cette sorte de cas, aussi bien que dans tous les autres, dans lesquels il n'a point de juge sur la terre, que d'en appeler au ciel. D'un côté, les conducteurs, par de telles entreprises, exercent un pouvoir que le peuple n'a jamais remis entre leurs mains, et ne peut jamais y avoir remis, puisqu'il n'est pas possible qu'il ait jamais consenti qu'il le gouvernasse et qu'il dominasse sur lui, à son désavantage et à son préjudice, et fisse ce qu'il n'avait point droit de faire. De l'autre, le peuple n'a point de juge sur la terre à qui il puisse appeler contre les injustices de ses conducteurs. Ainsi, de tout cela résulte le droit d'appeler au ciel, s'il s'agit de quelque chose qui soit assez importante. C'est pourquoi, quoique le peuple, par la constitution du gouvernement, ne puisse être juge, ni avoir de pouvoir supérieur pour former des arrêts en cette rencontre, néanmoins, en vertu d'une loi qui précède toutes les lois positives des hommes, et qui est prédominante, il s'est réservé un droit qui appartient généralement à tous les hommes lorsqu'il n'y a point d'appel sur la terre, savoir le droit d'examiner s'il a juste sujet d'appeler au ciel. On ne peut même légitimement renoncer à un droit si essentiel et si considérable parce que personne ne peut se soumettre à un autre jusqu'à lui donner la liberté de le détruire et de le rendre malheureux. Dieu et la nature ne permettent jamais à qui que ce soit de s'abandonner tellement soi-même que de négliger sa propre conservation. Comme nous ne sommes point en droit de nous ôter la vie, nous ne saurions, par conséquent, avoir droit de donner à d'autres le pouvoir de nous l'ôter. Et que personne ne s'imagine que ce droit et ce privilège des peuples soient une source de perpétuel désordre, car on ne s'en sert jamais que lorsque les inconvénients sont devenus si grands que le plus grand nombre des membres de l'État en souffre beaucoup et sent qu'il est absolument nécessaire d'y remédier. Les princes sages qui gouvernent selon les lois et qui ont à cœur le bien public n'ont point à craindre cette sorte de danger et de désordre qu'on fait sonner si haut. Il ne tient qu'au conducteur de les éviter comme des choses auxquelles, effectivement, ils doivent prendre garde de n'être pas exposés. Chapitre 15. Du pouvoir paternel, du pouvoir politique et du pouvoir despotique considérés ensemble. 169. Quoique j'aie déjà eu occasion de parler séparément de ces trois sortes de pouvoirs, néanmoins, les grandes et fâcheuses erreurs dans lesquelles on est tombé en dernier lieu sur la matière du gouvernement étant provenues, à mon avis, de ce qu'on a confondu ces différents pouvoirs, il ne sera peut-être pas hors de propos de les considérer ici ensemble. 170. Premièrement, donc, le pouvoir paternel ou le pouvoir des parents n'est rien autre chose que le pouvoir que les pères et les mères ont sur leurs enfants pour les gouverner d'une manière qui soit utile et avantageuse à ces créatures raisonnables à qui ils ont donné le jour jusqu'à ce qu'elles aient acquis l'usage de la raison et soient parvenues à un état d'intelligence dans lequel elles puissent être supposées capables d'entendre et d'observer les lois, que ces lois soient les lois de la nature ou les lois positives de leur pays. Je dis capables de les entendre aussi bien que tous les autres qui vivent comme des hommes libres sous ces lois. L'affection et la tendresse que Dieu a mise dans le cœur des pères et des mères pour leurs enfants font voir d'une manière évidente qu'il n'y a pas eu intention que leur pouvoir fût un pouvoir sévère, ni leur gouvernement un gouvernement arbitraire et sans bornes. Mais, bien que ce gouvernement et ce pouvoir se terminassent aux soins, à l'instruction et à la conservation de leur lignée. Après tout, il n'y a nul sujet, ainsi que j'ai prouvé, de penser que le pouvoir des pères et des mères s'étende jamais sur la vie de leurs enfants, plus que sur la vie d'aucune autre personne, ou qu'il assujettisse les enfants lorsqu'ils sont devenus des hommes faits et qu'ils ont acquis l'usage de la raison à la volonté de leur père et de leur mère, plus qu'ils ne requièrent la considération de la vie et de l'éducation qu'ils ont reçue d'eux et les obligent à d'autres choses qu'à ces devoirs de respect, d'honneur, de reconnaissance, de secours, de consolation, dont ils sont tenus de s'acquitter toute leur vie, tant envers leur père qu'envers leur mère. Le pouvoir et le gouvernement des parents est donc un pouvoir et un gouvernement naturel. Mais il ne s'étend nullement sur les droits, les fins et la juridiction du pouvoir et du gouvernement qu'on appelle politique. Le pouvoir d'un père ne regarde point ce qui appartient en propre à ses enfants, qui ont droit seul d'en disposer. 171. En second lieu, le pouvoir politique est ce pouvoir que chaque homme a dans l'état de nature, qu'on a réuni entre les mains d'une société, et que cette société a remis à des conducteurs qui ont été choisis, avec cette assurance et cette condition, soit expresse ou tacite, que ce pouvoir sera employé pour le bien du corps politique et pour la conservation de ce qui appartient en propre à ses membres. Or, le pouvoir que chacun a dans l'état de nature et dont on se dépouille entre les mains d'une société consiste à user des moyens les plus propres et que la nature permet pour conserver ce qu'on possède en propre et pour punir ceux qui violent les lois de la nature. en sorte qu'en cela, on travaille le plus efficacement et le plus raisonnablement qu'il est possible à sa propre conservation et à la conservation du reste des hommes. La fin, donc, est le grand objet de ce pouvoir lorsqu'il est entre les mains de chaque particulier dans l'état de nature, n'étant autre chose que la conservation de tous ceux de la société, c'est-à-dire de tous les hommes en général, lorsqu'il vient à passer et à résider entre les mains des magistrats et des princes, il ne doit avoir d'autre fin ni d'autre objet que la conservation des membres de la société sur laquelle ils sont établis, que la conservation de leur vie, de leur liberté et de leur possession, et par conséquence, dont la force et l'évidence ne peuvent que se faire sentir. Ce pouvoir ne saurait légitimement être un pouvoir absolu et arbitraire à l'égard de leur vie et de leurs biens, qui doivent être conservés le mieux qu'il est possible. Tout ce à quoi le pouvoir dont il s'agit doit être employé, c'est à faire des lois et à y joindre des peines, et dans la vue de la conservation du corps politique, à en retrancher ses partis et ses membres seuls qui sont si corrompus qu'ils mettent en grand danger ce qui est sain. Si l'on infligeait des peines dans d'autres vues, la sévérité ne serait point légitime. Du reste, le pouvoir politique tire son origine de la convention et du consentement mutuel de ceux qui se sont joints pour composer une société. 172. En troisième lieu, le pouvoir despotique est un pouvoir absolu et arbitraire qu'un homme a sur un autre, et dont il peut user pour lui ôter la vie dès qu'il lui plaira. La nature ne peut le donner, puisqu'elle n'a fait nulle distinction entre une personne et une autre, et il ne peut être cédé ou conféré par aucune convention, car personne n'ayant un tel pouvoir sur sa propre vie, personne ne saurait le communiquer et le donner à un autre. Il n'y a qu'un cas où l'on puisse avoir justement un pouvoir arbitraire et absolu. C'est lorsqu'on a été attaqué injustement par des gens qui se sont mis en état de guerre et ont exposé leur vie et leurs biens au pouvoir de ceux qu'ils ont ainsi attaqués. En effet, puisque ces sortes d'agresseurs ont abandonné la raison que Dieu a donnée pour régler les différends, qu'ils n'ont pas voulu employer les voies douces et paisibles, et qu'ils ont usé de force et de violence pour parvenir à leur fin injuste, par rapport à ce sur quoi ils n'ont nul droit, ils se sont exposés au même traitement qu'ils avaient résolu de faire aux autres, et méritent d'être détruits dès que l'occasion s'en présentera, par ceux qu'ils avaient dessein de détruire. Ils doivent être traités comme des créatures nuisibles et brutes, qui ne manqueraient point de faire périr si on ne les faisait périr eux-mêmes. Ainsi, les prisonniers pris dans une guerre juste et légitime, et ceux-là seuls, sont sujets au pouvoir despotique, qui, comme il ne tire son origine d'aucune convention, aussi n'est-il capable d'en produire aucune, mais est l'état de guerre continué. En effet, quel accord peut-on faire avec un homme qui n'est pas le maître de sa propre vie, si on l'en rend une fois le maître, le pouvoir despotique et arbitraire cesse? Car celui qui est devenu le maître de sa personne et de sa vie a droit sur les moyens qui peuvent la conserver. De sorte que, dès qu'un accord intervient entre un prisonnier de guerre et celui qui l'a en son pouvoir, l'esclavage, le pouvoir absolu et l'état de guerre finissent. 173. La nature donne le premier des trois pouvoirs dont nous parlons, savoir le pouvoir des parents, aux pères et aux mères, pour l'avantage de leurs enfants durant la minorité, pendant laquelle ils ne sont point capables de connaître et de gouverner ce qui leur appartient en propre. Et, par ce qui appartient en propre, il faut entendre ici, aussi bien que dans tous les autres endroits de cet ouvrage, le droit de propriété qu'on a sur sa personne et sur ses biens. Un accord volontaire donne le second, savoir le pouvoir politique aux conducteurs et aux princes pour l'avantage de leurs sujets, en sorte que ces sujets puissent posséder en sûreté ce qui leur appartient en propre. Enfin, l'état de guerre donne le troisième, c'est-à-dire le pouvoir despotique aux souverains qui se sont rendus maîtres des personnes et des biens de ceux qui avaient eu dessein de se rendre maîtres des leurs, et qui, par là, ont perdu le droit qu'ils avaient auparavant à ce qui leur appartenait en propre. 174. Si l'on considère la différente origine, la différente étendue et les différentes fins de ces divers pouvoirs, on verra clairement que le pouvoir des pères et des mères est autant au-dessous du pouvoir des princes et des magistrats que le pouvoir despotique excède ce dernier, et que la domination absolue est tellement éloignée d'être une espèce de société civile qu'elle n'est pas moins incompatible avec une société civile que l'esclavage l'est avec des biens qui appartiennent en propre. Le pouvoir des parents subsiste lorsque la minorité rend les enfants incapables de se conduire et de gouverner leurs biens propres. Le pouvoir politique, lorsque les gens peuvent disposer de leurs biens propres, et le pouvoir despotique, lorsque les gens n'ont nul bien propre.